Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, départ pour le Moyen-Âge au XIVe siècle. À une époque où le royaume de France va affronter un des plus grands cataclysmes de son histoire, la peste noire.
Au cœur de l'histoire.
Ce sont souvent des personnes qui malheureusement ont participé à des rites funéraires de personnes malades et qui se contaminent relativement très vite. Il y a un état de choc, il y a une peur qui s'est généralisée.
C'était Luis Encinas, un infirmier, en poste dans le sud de la Guinée, où s'est développé en mars 2014 l'un des premiers foyers du virus Ebola. À l'époque, la fièvre hémorragique avait provoqué la mort d'environ 5000 personnes en Guinée, au Liberia, en Sierra Leone et au Nigeria. L'histoire de l'humanité est jalonnée de crises sanitaires, parfois hors normes. On redoute, depuis quelques années, une nouvelle grande pandémie qui pourrait coûter à l'humanité une grande partie de sa population. Car cela s'est déjà produit une fois par le passé. À un moment, au Moyen-Âge, où les hommes ont pendant un temps cru qu'ils étaient invincibles. Avant que surgisse un fléau de Dieu, croyait-on à l'époque, la peste noire. Je vous emmène aujourd'hui au cœur de l'histoire de cette grande pandémie. Nous sommes en 1348, dans le quartier de Notre-Dame de Paris. Sur l'île de la Cité, l'atmosphère est extrêmement pesante, voire suffocante. Les 250 000 habitants vivent dans une psychose constante, celle d'être atteints par ce qu'ils appellent la grande mortalité ou la maladie des bosses. Car depuis quelques semaines, tel est le sort de milliers de Parisiens. Quartier après quartier, rue après rue, les habitants meurent en seulement quelques jours de façon inexpliquée. Certaines rues pavées sont jonchées de cadavres. Leur odeur âcre et nauséabonde gagne l'ensemble de la ville. Ceux qui n'ont pas encore été contaminés vivent avec la mort, parmi les morts. Ils tentent de continuer leurs activités pour gagner leur vie, mais leur journée est rythmée par le son des cloches de Notre-Dame qui sonne le glas pour un homme ou une femme. À chaque fois, le carillonneur sonne plus fort, comme pour rappeler aux vivants qu'ils sont toujours là. Deux fois par semaine, les Parisiens résignés assistent à un étrange ballet. Sur la scène, ils voient passer de larges barques avec des fonds plats qui avancent lentement sur le fleuve. Elles ne sont pas chargées de marchandises mais de corps humains recouverts de pustules. Des dizaines de cadavres y sont entassés, ceux de vieillards, mais aussi d'enfants et d'adultes en pleine force de l'âge. Depuis les rives, les Parisiens assistent à cette macabre procession saisie d'effroi. D'habitude, tôt le matin, ils voient passer ces mêmes bateaux qui laissent dans leur sillon une bonne odeur de pain chaud. Car ces embarcations proviennent du petit port de la commune de Corbeil, à 30 km de Paris. Elles servent à transporter le pain fabriqué dans cette ville jusqu'au cœur de la capitale. Mais avec les très nombreuses victimes de la peste, ces barques ont été réquisitionnées pour évacuer les corps à l'extérieur de la ville. Les malades viennent mourir à l'Hôtel Dieu, mais l'hôpital est saturé. Les morts sont transportés sur des chariots de fortune pour être enterrés dans des fosses communes au cimetière des Saints Innocents, près de l'actuel quartier des Halles. Mais au bout de quelques semaines, les victimes sont trop nombreuses. Il faut procéder à 500 inhumations par jour. On tente de brûler les corps sur des bûchers en espérant éviter la propagation de la maladie. Alors on va creuser d'immenses fosses au cimetière de la Trinité, dans la rue Saint-Denis, pour y jeter plus de 600 cadavres. Mais là encore, l'espace vient à manquer. Voilà pourquoi la décision est prise d'évacuer les morts sur des bateaux de marchandises provenant de Corbeil, appelés Corbeillard ou Corbilla. C'est ainsi que peu à peu, on va donner le nom de Corbillard aux véhicules transportant les morts. Depuis, le nom est resté dans notre langue. Pendant 4 ans, les Parisiens vont devoir faire face à cette terrible épidémie qui leur apparaît comme le plus grand cataclysme de l'histoire de l'humanité. Il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, près de l'actuelle rue de Rivoli et du Louvre, est à l'époque la plus importante de Paris. Entre avril 1349 et juin 1350, elle tient un registre et comptabilise 3116 morts. Ce chiffre est multiplié par 50 par rapport aux années qui précèdent l'arrivée de la peste. En tout, 50 000 à 80 000 personnes décèdent à Paris, soit un gros tiers de la population. Mais la capitale est loin d'être la seule ville française à être touchée. Dans d'autres villes de France, en effet, on assiste à une véritable catastrophe sanitaire. Par exemple, en l'espace de 10 ans, Aix-en-Provence perd la moitié de sa population. À chaque fois, les symptômes sont les mêmes. Le malade présente d'abord une fièvre brutale, qui provoque soit une forte somnolence, soit d'intenses crises de délire, mêlées à des maux de tête et à des vomissements. Sur son corps se développe une pustule, qui se nécrose et forme une sorte de plaque gangréneuse appelée charbon pesteux. À ce stade, le système immunitaire des malades réagit. Leurs ganglions gonflent et peuvent atteindre la taille d'un œuf. Très contagieux, les malades décèdent dans les 5 jours qui suivent les premiers symptômes. Voilà pourquoi à l'époque, on appelle cette pandémie la maladie des bosses ou la grande mortalité. Extrêmement redoutée des hommes, la maladie tire son nom du mot latin pestis qui signifie fléau. Le terme de peste n'est utilisé que par les auteurs anglais et français au XIXe siècle. On a souvent dit que l'adjectif noir utilisé au Moyen-Âge faisait référence à la couleur foncée que prenaient les cadavres de la peste. En réalité, il s'agissait plutôt d'insister sur l'aspect terrible, atroce, lugubre de la maladie. Mais d'où vient ce mal contre lequel les hommes se retrouvent si impuissants? À l'époque, ils ignorent l'origine de la maladie. Ils ne savent pas encore qu'elle provient de rats, qu'elle est transmise à l'homme par des puces. Et surtout, ils sont encore plus loin d'imaginer que ce virus provient de contrées très, très lointaines. L'envergure de la pandémie est telle que les auteurs qui lui sont contemporains écrivent beaucoup à son sujet. C'est pour cette raison que l'on peut suivre à la trace la propagation de ses effets à travers l'Europe. Elle prend racine dans les années 1330 en Asie centrale, sans doute dans l'actuel Kazakhstan. En 1346, un premier foyer de peste se déclare. La maladie se répand vers l'Iran, au sud, mais aussi vers le nord. Un an plus tard, le grand Khan, Jani Beg, arrive à la tête de l'armée mongole, en Crimée. Il assiège une colonie génoise dans la ville de Kaffa, mais les troupes mongoles s'amenuisent car les soldats sont emportés par la maladie. Le Khan est obligé de lever le siège. Mais avant de partir, comme pour se venger, il fait jeter les cadavres de pestiférés au-dessus des murailles de la ville. À partir de ce moment, la contamination est très rapide. La peste embarque sur les bateaux, se déplace dans les ports, utilise des voies commerciales. La maladie touche vite l'Orient, Constantinople, Le Caire, Messine. Puis elle se dirige vers l'Occident, atteignant en premier Marseille, Venise, Barcelone, Pise et Gênes. Autant de villes portuaires. Puis, elle gagne l'intérieur du continent et continue sa progression. Elle atteint même le sud de l'Angleterre en juin 1348. Enfin, elle se répand et remonte encore en Écosse, gagne l'Irlande. L'Europe du Nord, la Scandinavie sont touchées par les voies commerciales, par la Baltique et la mer du Nord. La peste n'a pas cessé sa terrible avancée. Elle s'étend ensuite vers l'Est et se propage en Pologne et en Russie. En 1352, elle atteint Moscou et elle provoque la mort du grand-duc de Moscovie et du patriarche de l'Église russe pour enfin redescendre jusqu'à Kiev, en Crimée, non loin de là où elle avait fait ses premières victimes. En moins de 5 ans, de 1348 à 1352, c'est l'ensemble de l'Europe qui est infectée. Des témoins vont décrire l'arrivée de la peste dans leur pays. C'est le cas du père franciscain Michel Platensis de Piazza, qui mentionne les premiers malades dans ses chroniques.
Au mois d'octobre 1347, arrivèrent de Gênes dans le port de Messine 12 navires ayant fui le fléau que le Seigneur leur avait envoyé en châtiment de leurs péchés. Ils apportaient un mal si contagieux qu'il suffisait de parler avec ceux qui en étaient affligés pour être soi-même mortellement atteint sans espoir de guérison.
À Messine, puis plus tard à Marseille, les hommes ont un sentiment d'impuissance. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, car ils ont l'impression que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que se produit une telle horreur. Pourtant, il existe bien d'autres cas de peste qui sont antérieurs à celle du Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, on a retrouvé des traces d'une première pandémie. Elle s'est déclarée en 541 sous le règne de l'empereur Justinien. On l'appelle donc la peste de Justinien. Selon les textes, elle a débuté en Éthiopie et s'est propagée jusqu'en Égypte. Comme au XIVe siècle, la maladie a traversé la Méditerranée. Cette première pandémie durera avec des rebonds, environ 2 siècles. Déjà sous l'Antiquité, les axes commerciaux empruntés par les hommes sont source de transmission de savoir, d'idées, de marchandises et de microbes très puissants. Face à cette terrible maladie aux causes inexpliquées qui décime des populations entières, les hommes sont désemparés. Écoutez ce texte poignant du poète Pétrarque, un humaniste du XIVe siècle. Il fait part de son impuissance, mais dit aussi à quel point la maladie est si violente qu'elle en paraîtra un jour incroyable.
Consultez les historiens, ils gardent le silence. Interrogez les médecins, ils sont glacés de peur. Adressez-vous aux philosophes, ils vous répondent par un geste négatif. La postérité pourrait-elle croire à tant de malheurs lorsque nous y croyons à peine, nous qui en avons été témoins? Heureux nos arrière-petits-fils qui n'auront pas vu ces calamités et qui peut-être regarderont comme une fable le récit que nous en ferons.
Mais pour bien comprendre comment la peste noire est vécue et perçue par ses contemporains, il faut se replacer dans les conceptions mentales de ce temps. Très vite, la représentation du monde des hommes les amène à invoquer la colère de Dieu. Pour eux, le monde est l'œuvre du divin. Par conséquent, toutes les manifestations physiques qui s'y déroulent sont autant de messages que le Créateur envoie aux hommes. Si leurs sociétés sont touchées par la mort, c'est parce que Dieu veut les punir de leurs péchés. Cette croyance prend racine dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le deuxième livre de Samuel, lorsque le châtiment du roi David est abordé. Pour le punir d'avoir mal agi, un ange, appelé ange de l'Éternel, brandit son épée, symbole de la colère divine, et fait s'abattre la peste sur les hommes. Vers 1350, la religion encadre tellement la société médiévale qu'elle est la source de tout ce que l'homme ne peut expliquer rationnellement. Dans toute l'Europe, le recours à la religion est systématique pour supporter la dure réalité. Chacun redouble alors de prières en appelant la Vierge et les saints. Il prie en particulier Saint Sébastien, le patron des fantassins, des policiers, qui est surtout invoqué pour lutter contre la peste et les épidémies en général. Certains préparent même leur éventuelle mort en léguant des terrains à l'église pour bénéficier de prières du clergé en cas de décès. Le culte du purgatoire, une étape intermédiaire entre le ciel et l'enfer, permettrait de se laver de ses péchés. Il connaît un prodigieux développement dans les régions méridionales. Mais quelques chrétiens, une minorité, vont aller beaucoup plus loin. Puisque le fléau est un défi envoyé par Dieu, leur idée est de se punir eux-mêmes des péchés qu'ils ont commis. Des groupes de chrétiens se constituent un peu partout en Europe, de la Pologne à l'Allemagne et jusqu'aux Pays-Bas et en France. Ils vont commencer à se déplacer dans les villes par bande, 50, 100 personnes. En quelques mois, ils sont devenus très nombreux. On les appelle les flagellants, car ils privilégient les châtiments corporels. Au moment où ces groupes progressent, Jean Lebel, un chroniqueur habitant Liège, dit à cette époque en quoi consistait leur rituel.
Certaines personnes commencèrent grande pénitence et grande variété de dévotions. Entre autres, les gens d'Allemagne commencèrent à aller par le pays à marche forcée et en grand nombre. Ils portaient des crucifix, des gonfanons et de grandes bannières de soie comme on le fait lors des processions. Ils défilaient dans les rues sur une double file chantant à haute voix des cantiques à Dieu et à Notre-Dame, puis gagnaient une place où ils se dévêtaient jusqu'à leur linge deux fois par jour et se fouettaient de coups de lanière et d'aiguilles fichées en elles autant qu'ils le pouvaient. Si bien que le sang de leurs épaules coulait de tous côtés, le tout en chantant leurs cantiques. Puis ils se jetaient trois fois par terre en signe de piété et par grande humiliation l'un passait au-dessus de l'autre.
Les flagellants se multiplient, leur dévotion est unique. Mais en 1349, ce mouvement commence à poser un problème à l'Église. Il devient anarchique. Il ne respecte plus les règles établies par les prélats. Les flagellants ont tendance à interrompre les services religieux, à ne pas reconnaître l'autorité spirituelle des évêques. Ils accomplissent des pèlerinages de ville en ville pendant 33 jours et demi, comme le Christ, qui avait vécu, dit-on, 33 ans et demi. Durant ce temps, ils prient, ils chantent, ils écoutent des prédications et se flagellent en place publique. En somme, ils n'accordent de valeur qu'à leur propre rite. Mais l'existence même des flagellants va être remise en question lorsque ces derniers décident de s'en prendre à une minorité. Ils estiment que les Juifs sont à l'origine de la propagation de la peste noire. Les Juifs. En février 1349, une partie de la population les accuse d'avoir empoisonné les puits pour répandre la maladie. À Strasbourg, les flagellants, aidés par la population locale, tuent des juifs à main nue en les traitant de semeurs de peste. 2000 personnes sont ainsi massacrées lors de ce pogrom. La scène se répétera à Barcelone, à Bruxelles, à Erfurt, à Francfort. Dans ses chroniques, Jean Lebel décrit les exactions des flagellants.
Quand on s'aperçut que cette mortalité et pestilence ne cessaient point malgré les actes de pénitence, naquit une rumeur disant que cette mortalité venait des Juifs et que les Juifs avaient jeté venins et poisons dans les puits et les fontaines du monde entier afin d'empoisonner toute la chrétienté pour s'emparer du pouvoir sur toute la terre. C'est pourquoi chacun, puissant ou modeste, fut si remonté contre eux que ceux-ci furent tous brûlés et mis à mort par les seigneurs et la justice locale partout où les flagelleurs passaient.
Évidemment, les Juifs ne mouraient pas moins de la peste noire que les autres. À la suite de ces violences, les autorités ecclésiastiques se mobilisent pour dissoudre les groupes de flagellants. Il en va de leur propre légitimité. En octobre 1349, le pape Clément VI décide de frapper un grand coup. Il édicte une bulle contre les flagellants et leurs nombreux débordements. Le texte énumère tous les délits qu'ils ont commis contre le clergé et contre les Juifs. La bulle est adoptée dans toute l'Europe et les processions de flagellants sont désormais interdites. Malgré le poids de la religion dans la réaction des hommes face à la peste noire, les savants et médecins de l'époque tentent de trouver une explication scientifique à la propagation de la maladie. Beaucoup pensent que le monde que Dieu a créé est régi par des lois régulières. Certains d'entre eux tentent donc de voir comment s'agence le divin avec les phénomènes physiques qui se déroulent dans la nature. Guy de Chauliac est un chirurgien français qui travaillait au service de la papauté d'Avignon. Il a donc été le médecin des papes Clément VI, Innocent VI et Urbain V. Comme les scientifiques de son époque, il pense que le monde sensible est soumis à l'influence des astres. Pour lui, la peste noire est l'effet d'un dysfonctionnement parmi les quatre éléments qui composent le corps, l'eau, la terre, l'air et le feu. Ce dysfonctionnement peut s'expliquer soit par le manque d'hygiène de vie, soit par un faisceau de causes qui relève des mouvements des astres. C'est cette hypothèse que Guy de Chauliac va particulièrement travailler. Dans son ouvrage, intitulé « La grande chirurgie », écrit en 1363, le médecin décrit un étrange phénomène astral qui aurait eu lieu le 24 mars 1345, soit 3 ans avant l'éclatement de la pandémie.
La disposition de certaines conjonctions des plus grandes de 3 corps supérieurs, Saturne, Jupiter et Mars, avait précédé l'an 1345, le 24e jour du mois de mars, au 14e degré du Verseau. Car les plus grandes conjonctions signifient choses merveilleuses, fortes et terribles, tels les changements de règne, l'avènement de prophètes et les grandes mortalités. Il ne faut donc pas s'étonner si une si grande conjonction signifia une merveilleuse et terrible mortalité, car elle ne fut pas seulement des plus grandes, mais presque maximale. Et parce qu'elle fut en signe humain, elle adressa dommages sur la nature humaine.
Bien sûr, aujourd'hui, l'explication de Guy de Chauliac peut faire sourire. Mais à l'époque, ces hypothèses paraissent crédibles. D'autant qu'un étrange phénomène est apparu dans le ciel quelques années auparavant, en 1337, une comète qui a traversé le ciel. Elle est attestée par de nombreuses sources. Et donc, Guy de Chauliac y voit une confirmation de sa théorie. Pour combattre le fléau, les villes mettent en place un nouveau système. La quarantaine. Il consiste à isoler les personnes malades des sujets dits sains. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, à Venise, tous ceux qui arrivent doivent passer un mois sur une île avant d'obtenir l'autorisation d'entrer dans la ville. Des années après cette pandémie, de nombreuses cités adoptent ce système, comme Marseille par exemple, en 1383. La plupart des ports européens du XVe siècle finiront par établir un système permanent de quarantaine. On utilisera aussi des billets de santé, sorte de passeport sanitaire délivré aux voyageurs sortant d'une ville saine et exigé par les autres villes pour donner l'autorisation d'y entrer. Les connaissances de l'hygiène, du corps et de la médecine n'étant pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, on tente de se protéger de la maladie par des méthodes assez surprenantes. Par exemple, on imbibait une éponge de vinaigre blanc, d'absinthe, de guenièvre ou encore de lavande, de sauge, d'un clou de girofle, qu'on considère comme des désinfectants et on les met sur le devant de la bouche. Ces pratiques sont inefficaces pourtant. Certains médecins survivent grâce à leurs outils. Ils portent par exemple de longs masques qui les éloignent des patients et donc limitent la propagation par les puces, De la même manière, ils sont protégés par leur long manteau qui leur évite d'entrer en contact avec d'autres malades. Bref, par chance, plus que par logique, certains échappent à la maladie. Le sommet de la maladie de la peste noire se situe entre 1348 et 1352. Mais elle a connu des résurgences tout au long du XIVe et du XVe siècle. C'est l'une des plus grandes catastrophes démographiques qu'ait connue l'Europe dans toute son histoire. Cette seule pandémie, entre 1348 et 1352, a, en moins de 5 ans, fait 25 millions de victimes. Elle a tué entre 30 et 50% de la population européenne. Dans le seul royaume de France, la population a chuté de 41%, soit 7 millions de victimes sur les 17 millions que comptait notre pays à l'époque. Et tout cela sans qu'on sache comment la maladie se propage. Il faudra attendre 1894 pour qu'Alexandre Yersin, un bactériologue français, élève de Pasteur, parvienne à identifier pour la première fois le bacille de la peste. C'est un microbe très résistant qui porte depuis le nom de son découvreur, le bacille de Yersin. Il existe en fait à l'état naturel chez certains rongeurs d'Asie et peut être transmis par l'intermédiaire de puces et de rats à l'homme. Cette découverte scientifique majeure a frappé les esprits et a permis de limiter depuis la propagation de la peste. Elle a aussi attiré l'attention de l'ensemble des autorités sanitaires mondiales sur les questions de transmission et les questions d'hygiène. C'est là-dessus que comptent la plupart des États pour essayer de limiter une nouvelle pandémie. Récemment, plusieurs alertes ont été chaudes. La grippe A, en 2009, a menacé d'entraîner une partie de la population mondiale. Mais les virus, aujourd'hui, touchent aussi la population animale, qui jouxte celle des hommes. La grippe aviaire, par exemple, la tremblante du mouton, ou encore la vache folle, la maladie du prion, sont plusieurs de ces pandémies qui passent de l'homme à l'animal, faisant craindre qu'un jour, une catastrophe semblable puisse emporter une grande partie de la population mondiale. Face au risque de pandémie, les autorités sanitaires mondiales n'ont qu'une solution, surveiller pour essayer de repérer un foyer éventuel et ensuite essayer d'entraver sa diffusion, en quelque sorte prévenir pour ne pas périr. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la peste noire, il existe un petit ouvrage bien pratique signé par Michel Signoli aux Presses universitaires de France, « L'histoire de la peste noire » paru en 2018. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Christophe Daviau.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.